Europe 1, la libre antenne. Sabine Marin.
Bienvenue sur cette libre antenne du samedi soir. Ravie de vous retrouver pour ces deux heures de confidence et d'émotion. Vous savez que nous sommes des êtres faits d'émotions, mais je ne sais pas si vous savez à quel point. La partie intellectuelle de notre cerveau ne gère que 15% de ce que nous faisons. L'autre, la partie émotionnelle, gère 85% de qui nous sommes. Nous sommes donc tous des êtres remplis d'émotions. Et si ces émotions existent, c'est pour être exprimées. Le problème, c'est que depuis qu'on est tout petit, on nous dit « arrête de t'écouter, prends sur toi, arrête de pleurer ». Et d'après vous, où vont toutes ces larmes qui n'ont pas pu couler? Tous ces mots qui n'ont pas été dits? Eh bien, ils restent coincés à l'intérieur et ils font des nœuds. Alors ce soir, je vous invite à vous libérer de ces émotions, à libérer tout ce qui reste à l'intérieur de vous et qui fait mal pendant ces deux heures de libre antenne. Nous sommes là pour vous écouter, vous comprendre et dans la mesure du possible, vous aider, vous éclairer. Pour prendre la parole et exprimer ses émotions, vos soucis, vos préoccupations, un seul numéro de téléphone, le 3921. Cindy et Nicolas vous attendent au standard Europe 1, sous l'œil complice de Pierre-Yves qui réalise cette émission. Vous savez que vous pouvez aussi participer par SMS jusqu'à 1h du matin. Vous faites le 739-21 en commençant votre message par le mot « nuit ». Ce soir encore, baissez la lumière et rejoignez-moi dans cet espace chaleureux de confidence. A tout de suite.
Sabine Marin est à votre écoute sur Europe 1.
Bonsoir Charlotte.
Bonsoir Sabine. Bien écoutez, moi je vous appelle hein, parce que j'étais passée avec vous il y a de ça, je dirais un an ou deux, et pour vous annoncer un bon parcours, bonnes nouvelles.
Ah chouette. Alors resituez-moi s'il vous plaît ce qu'on s'était dit à l'époque.
Eh ben en fait à l'époque j'étais emmerdée en fait par un pauvre type en fin de compte et j'ai suivi de nombreux conseils et ben j'ai fini par faire ce qu'il fallait faire et pour le moment ça fait 7 mois que j'ai déposé ma plainte et rien ne s'est reproduit depuis un grand bon moment. Je pense que je me suis renseignée, hein, il y a quelque chose qui est bien en cours, donc je pense que j'ai pas de crainte trop à avoir de ce côté-là, ça doit suivre son cours.
Une procédure, vous dites quelque chose, c'est une procédure dont vous parlez.
Oui, tout à fait. Qui sera certainement peut-être plus ou moins longue, mais ça a fini par me rassurer et puis je me suis complètement mis en off aussi avec cette histoire d'épidémie et c'est une décision personnelle pour poursuivre vers quelque chose comme ce que font un peu la plupart des gens en ce moment, j'ai l'impression. Je pense que tout le monde a envie d'une nouvelle ère et
un bilan un peu, oui, tout à fait.
C'est ça. Et d'un nouveau souffle, je dirais. Et du coup, c'est ce que je me suis autorisée et on apprend beaucoup. On apprend beaucoup et je pense que quelque part, il y a des petites éclaircies que j'entrevois effectivement progressivement, que je laisse venir. Je me laisse porter et puis mais j'ai quand même encore quelques petites craintes, non seulement parce que je positive pour l'avenir, mais craintive de l'avenir. C'est-à-dire que en gros, je dans certains petits domaines, j'ai encore une petite stagnation où je ne sais pas trop par où aller. Et disons que j'ai plein de petites idées qui émergent et que je laisse vivre. Mais je me dis, j'ai un peu peur de la sécurité, de la prise de risque. C'est-à-dire, j'ai des petites propositions à droite, à gauche, mais est-ce que c'est la crainte de que tout le monde soit un petit peu, en ce moment, avec cette épidémie, pas rassuré pour se lancer dans de nouveaux projets, j'en sais rien. Mais j'y vais pas à reculons, mais voilà, je suis dans une espèce de chute où je suis un peu au bord d'une falaise et je me dis, ben plonge, mais ne prends pas risque non plus, ne prends pas de risque non plus parce que voilà, ne te refais pas mal
Oui.
non plus, risque pas de te récorcher, prudence quoi, en fin de compte. Et en fin de compte, là je termine, en fin de compte, ben, je suis plus en thérapie, enfin je vais plus l'être. Il me reste encore une séance que je vais terminer la prochaine fois. Et dans le cadre d'un accompagnement que j'avais, bah, par rapport aussi principalement à ce que j'avais vécu là sur les violences dites agressions, etc. Et du coup, j'ai fait plutôt un beau parcours en 3 ans. Et j'arrête. Hein. Chose curieuse, j'ai eu des crises de larmes en fin de compte suite à ça. Parce que bon ben il y a aussi la personne qui me suit qui m'annonçait ben, la fin de notre thérapie, mais aussi la fin de son parcours à elle. Il y a une drôle d'émotion en fin de compte en me disant
Est-ce que je
mais
suis assez grande pour voler toute seule?
ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est exactement ça, quelque part. J'ai toujours ce côté, c'est dingue, hein, qu'elle dit très bien, la petite fille en moi qui se cherche encore mais qui finalement a fini par laisser effectivement ouvrir, réentrouvrir un petit peu ces petites portes. Mais vous savez, quand on vit effectivement des choses qui vous mettent effectivement en doute avec vous-même et dans la crainte, c'est normal de ressentir ça, je pense. Je pense qu'à un moment donné,
Oui.
il faut laisser s'estomper progressivement sans. Puis c'est normal le fait, je pense, de vouloir me protéger. Mais je comprends pas, j'ai pas compris ces crises de larmes au retour de la dernière fois, là, quand j'ai fait une séance quand même. Quand même.
Alors, on va remettre un petit peu les choses à plat parce que là, on est dans un débat très philosophique, mais concrètement, j'ai besoin de comprendre davantage de choses. Ça veut dire que cet homme qui vous a maltraité, vous avez réussi à couper, à vous séparer de lui. Et vous n'avez, d'après ce que j'ai compris, vous n'avez plus de nouvelles et c'est très bien comme ça.
Ouais, tout à
Pas
fait,
de
ouais.
menaces, pas de chantage.
Non, non. Non,
Sur
non,
le plan
ça fait.
matériel, ça s'est passé comment la séparation?
Ben, en fin de compte, c'est pas quelqu'un avec lequel je vivais. Donc, en fait, ben, j'ai fait ce
D'accord.
qu'il fallait. Hein. J'ai fait une procédure de façon à ce que ça s'arrête et ça se stoppe.
Donc il n'y avait pas de changement matériel pour vous, vous n'avez pas déménagé, vous n'avez rien changé à
Non,
votre quotidien,
non, non,
d'accord.
heureusement, heureusement,
Au
heureusement.
niveau du travail, parce que là, je n'ai pas bien suivi, vous avez changé, arrêté ou vous êtes en...
Je me suis mis en pause, en fait.
C'est quoi se mettre en pause? Vous avez démissionné? Vous avez été...
Non, non, du tout. Je devais refaire d'autres formations un peu plus performantes. Avec l'épidémie, je me suis dit que
D'accord.
je faisais un. J'avais besoin aussi de me reconcentrer sur autre chose. Et puis, je tournais un petit peu en rond. Je stagnais beaucoup dans ce domaine-là.
Alors, dans quel domaine étiez-vous justement?
Pas dans le domaine de l'herboristerie, je veux dire, et de la botanique, mais dans les propositions qu'on me faisait plutôt. Et puis même, je voilà, j'ai décidé de me mettre un petit peu en pause, en off, parce que voilà, je vivais en même temps dans ces moments-là, à l'époque, ce fameux truc d'agression.
Toxique
Donc
aussi, oui.
j'ai voulu séparer un peu les deux choses de façon à me repréoccuper un peu de moi-même, de mon corps, de mon esprit, et puis de relancer un petit peu la cadence progressivement pour pas tout
D'accord.
faire d'un seul coup, en fin de
Mais
compte.
je comprends parce que c'est vrai que la rupture et puis le fait d'avoir osé porter plainte et d'arrêter cette relation toxique et douloureuse, le besoin de se chercher, se trouver.
C'est
Professionnellement
ça.
et l'arrivée du Covid, je comprends tout à fait que ce soit toute une période propice à justement une mise sur pause, comme vous dites, un retrait qui est plutôt bénéfique. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver dans ce que vous dites aussi. Maintenant.
Ben, j'ai quand même beaucoup de personnes autour de moi qui le font.
Oui.
Qui voilà, ça a été des un petit peu dur, et il y a propice à un changement où on met jamais d'autres. Après, je vais prendre un peu les paroles d'une personne. Ouais. Elle dit très bien qu'on ne met jamais d'autres vestes et qu'on garde toujours la même et qu'on est propice à un renouveau de soi-même plutôt.
Moi, je pense qu'on cherche nos valeurs.
À notre raison,
on cherche nos valeurs surtout. On cherche à être plus conforme à nos valeurs à nous.
Et peut-être à reprendre racine et à trouver racine quelque part.
Peut-être que cette crise serait le bon côté de la chose finalement.
Ça oui, nous a obligé à réfléchir à beaucoup de choses. Ce que je trouve aussi, oui, finalement, heureusement. Comme quoi, il y a une sagesse qu'il faut qu'on regarde effectivement, que les gens devraient regarder effectivement beaucoup plus en eux et autour d'eux. Parce qu'elle est tout autour de nous. Et je pense que c'est très, très, très bénéfique parce que moi, je m'en suis beaucoup servie. Et c'est quelque chose que j'observais pas assez, mais la nature nous porte en fin de compte. Et c'est même notre essentiel, je dirais.
On parlait hier du verre à moitié plein, du verre à moitié vide avec cette crise de Covid. Et c'est exactement ça. Alors ensuite, quelle thérapie avez-vous entamée? Quel type de thérapie?
Eh bien, en fait, j'ai fait une... ça porte un nom. Une réparation, en fait. Comment je pourrais dire ça? Je suis allée voir une psychologue, hein, tout simplement, parce que, bon, sur d'autres aspects... où j'étais suivie pour d'autres choses.
Une psychothérapie classique, alors, non?
Oui, voilà. Mais quand même, elle a fait un suivi un peu comme si j'étais un peu en... Ça ressemblait un petit peu à une EFT, mais par la parole, en fait. Elle avait une façon d'aborder les choses, de libérer, de lâcher prise. On était beaucoup sur le lâcher prise et sur oser dire, oser ne pas avoir honte de s'exprimer. Et il y a eu beaucoup de crises de larmes, effectivement, beaucoup de choses non dites. Et puis en 3 ans, elle a beaucoup sur le fait cette délicatesse, le fait de rassurer sans cesse la personne et de s'autoriser confiance aussi, de s'autoriser et de se retrouver surtout. D'ailleurs, dans les mots que je dis, c'est complètement les mots qu'elle me disait aussi et qui m'ont beaucoup, 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 beaucoup aidée. Des mots aussi, des mots sur des mots. J'adore cette notion-là, des mots M-O-T-S sur des mots M-A-U-X. Comment je pourrais dire ça? C'est même difficile, effectivement. Là,
Qu'est-ce que ça vous a appris sur vous, par exemple, cette thérapie-là?
Par exemple, que rien n'est impossible. Parce que, par exemple, elle me faisait faire des petites... j'avais mon petit carnet, par exemple, et je faisais mes petits exercices. Et d'ailleurs, il y a quelque chose de drôle qui m'est arrivé récemment, où je me suis dit, mais comme quoi, avec de la patience et de la volonté, nom de nom, j'ai fait tomber, en fait, une de mes boucles d'oreilles dans un portefeuille. Et j'ai passé une heure à essayer de récupérer cette boucle d'oreille dans le portefeuille. Et je me suis dit, mais peu importe ce qui arrive, peu importe s'il y a des déchirures, peu importe le truc, je vais y arriver. Et ben, je me suis donné ce temps-là et j'y suis arrivée. Le truc tout bête, bon, le portefeuille était complètement foutu, mais ça, c'est autre chose. Mais j'ai pris mon temps sans m'énerver, sans être effectivement oppressée par, comme je l'étais auparavant. Je me suis donné mon temps, mon courage.
La persévérance, surtout, et se concentrer. Rester concentré sur son objectif.
C'est ça, sur son objectif, ouais. Me suis dit, mais là, tu te découvres, quoi. Du moins, tu te redécouvres. Et je me suis dit, mais tu vois, comme quoi les choses sont... Rien n'est impossible dans la vie. Et il suffit de le vouloir. Et quand on le veut très, très fort, je pense que tout se disperse progressivement autour de soi.
Il ne suffit pas de le vouloir. Il faut avoir les bons outils et être bien accompagné.
Également
aussi. La volonté toute seule n'y peut rien.
Ouais, ouais. C'est vrai aussi. Mais c'est justement, effectivement, le maximum du moment. Me lancer dans quelque chose et je me sens pas tout à fait en sécurité.
Alors justement, on va y revenir. Il y a déjà une grande prise de liberté en vous libérant de cette relation avec cet homme. Ça vous a permis de grandir.
Ouais.
3 ans de thérapie. D'après ce que j'ai compris, elle arrête, c'est ça déjà de son côté?
Oui.
Elle part à la retraite ou quelque chose dans ce boulot?
Non. Elle veut faire complètement quelque chose d'un peu autre.
D'accord.
Voilà, toujours dans le même domaine, bon, mais un peu autre chose, quoi.
Et elle pourrait pas vous suivre sur autre chose?
Alors si, mais c'est un projet qu'elle a, donc bon, elle...
Faut qu'elle le mette en place d'abord.
Voilà, c'est ça. C'est d'accord. Surtout ça.
Donc vous vous sentez abandonnée, si je comprends bien?
Un petit peu, mais j'avais un autre contact avec quelqu'un justement qui faisait de l'EFT, mais bon, cette personne apparemment a une période un petit peu avec énormément de demandes par rapport à l'épidémie, puis bon, des moments où la personne voulait se mettre aussi un petit peu en off, d'après ce que j'ai compris.
Alors pardon, et je vous coupe juste pour ceux qui ne sont pas au courant, EFT. Emotional Freedom Technique, technique de libération émotionnelle qui fonctionne par le tapping. Donc on se sert de ses doigts pour taper à différents endroits de son corps, tapoter pour libérer des émotions.
Et c'est proche de apparemment c'est proche de l'EMDR, mais il y aura une petite différence en fait.
Ah bah il y a une grosse différence. Oui. C'est pas qu'une petite.
Ah d'accord, ok.
Oui.
C'est pas du tout la même technique.
Non, l'EMDR c'est intervenu par les mouvements oculaires.
Ah d'accord. Ok.
Alors il y a une stimulation bilatérale, que ce soit auditive, kinesthésique ou visuelle avec le MDR. Mais écoutez, si vous voulez faire plus simple, sur mon site professionnel qui s'appelle La Voix de l'Hypnose avec un X à voix, j'ai écrit plein d'articles qui expliquent vraiment bien comment fonctionne le EFT et le MDR.
D'accord.
Comme ça, vous verrez, ce sera plus clair.
Bah, j'jetterai un œil,
Ça sera plus clair. J'ai pris le temps. Exactement. Le MDR, c'est vraiment principalement une stimulation visuelle. Non, la question que je me posais avant que j'oublie, Charlotte, c'est est-ce qu'elle considère que votre thérapie est finie ou est-ce que ça l'arrange parce qu'elle s'arrête?
Très bonne question. Je pense qu'elle me sent quand même stabilisée. Il y a quand même du mieux, voilà, elle pense que je suis capable effectivement de m'écouter, et parce qu'elle l'a vu avec le temps. Elle a senti effectivement dans ma façon de parler aussi, dans des trucs, des petites choses qui émergeaient. Elle me dit mais c'est à vous aussi de vous écouter sans arrêt dépendre des autres. Faites vos ces petites choses que vous faites progressivement, et d'ailleurs c'est pas la seule à me le dire. D'autres me l'ont dit aussi, à faire progressivement les petites choses, à me laisser porter progressivement.
À grandir.
Voilà. À laisser grandir simplement. Une petite fleur ou un petit truc.
Mais ça ne répond pas à ma question, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même un décalage entre ce qu'elle vous dit et ce que vous pensez, vous. Est-ce que si elle avait continué sa pratique, vous auriez aimé continuer un petit peu encore avec elle?
C'est vrai, c'est pas faux.
Oui, c'est ça.
Ouais.
Et donc là, il y a un peu quelque chose qu'on vous enlève sans vraiment vous laisser le choix.
Ben c'est un peu il y a sur certaines petites choses ouais c'est vrai.
C'est comme si vous n'étiez pas encore tout à fait prête à prendre votre envol quoi.
Ben c'est un petit peu ouais.
Alors peut-être que vous avez raison et que ça serait intéressant de continuer avec une autre sorte de thérapie.
Ben c'est ce que j'essayais de lui demander
Pas forcément avec elle hein, puisque j'ai compris qu'elle avait besoin d'un temps de formation pour s'installer autrement. Mais effectivement,
avec quelqu'un d'autre. Et justement, j'ai la personne que j'avais contactée, j'avais eu un très très bon contact, justement. Mais dans ces moments-là, j'étais pas très bien, je n'aurais pas les rendez-vous. Donc la personne.
Ah oui, c'est pas bien ça.
Ouais, forcément. Mais c'est quelque chose qu'elle comprenait aussi bien. Et c'est surtout le manque de temps et le manque de disponibilité. Parce qu'elle a beaucoup de demandes, c'est surtout ça. Donc, je sais pas, je peux toujours tenter de recontacter cette personne afin de demander si elle connaissait pas une collègue ou un collègue, je sais pas, d'essayer de me renseigner un peu autour de moi. Je trouve que l'approche de l'EFT, ça serait intéressant pour moi. Hormis, à savoir que j'ai fait de la luxoponcture, je sais pas si vous voyez ce que c'est.
Ah, pas du tout, qu'est-ce que c'est que ça?
Alors, c'est en fin de compte, c'est l'acupuncture par pression à frein rouge.
Ah d'accord, oui, je connaissais, je savais pas que ça s'appelait comme ça. Oui, à la place des aiguilles, c'est des petits points de chaleur, des petits bâtons chauds qu'on vous met.
C'est ça, ouais.
Petits comme de l'encens, enfin un petit bâton un peu rouge au bout qui chauffe, oui.
Exactement, oui,
Je connaissais pas le nom, mais oui.
Ouais, et ça m'a fait quand même beaucoup du bien aussi corporellement. Il y a quelque chose d'ailleurs dont je me suis rendu compte entre l'association corporelle et mentale, qui est euh, qui est hyper libérateur, effectivement. Enfin, je me suis rendu compte là en 3 ans Bon, bien évidemment, la vie des fois apporte quelques petites craintes, mais qui ne sont pas du tout les mêmes que ce que je vivais auparavant. J'ai vraiment l'impression d'avoir été pendant 3 ans en asphyxie et puis de dire ah, voilà, quoi, là je souffle, je me pose et je m'autorise aussi bien-être. Parce que quand on est sous l'emprise, parce que c'est ça, hein, quelque part. On ne peut pas s'autoriser ces moments-là. Ou du moins, on se les autorise, mais avec toujours une crainte et une peur d'eux.
Alors justement, cette peur, elle revient souvent dans vos mots depuis tout à l'heure. Et vous savez que quelquefois, la peur, c'est quand on projette dans le futur des problèmes du passé qui ne sont pas réglés. Et c'est ça qui me fait dire que vous n'êtes peut-être pas encore tout à fait prête à ne plus être accompagnée par une thérapeute.
Sur certains petits points, oui.
Il reste encore un petit truc. De quoi avez-vous envie dans votre vie professionnelle maintenant? Qu'est-ce qui vous attire?
Alors, très bonne question. D'ailleurs, c'est justement... elle me parlait de perspective, elle aussi, qu'est-ce qui serait justement envisageable. Et dans les perspectives, j'ai marqué silence. Chose très intéressante.
Et oui,
ça voudrait dire que je ne serais pas encore vraiment y répondre à cette question.
D'accord.
Malgré les petites choses, les petites idées que j'ai, notamment dans l'aromathérapie, dans les choses comme ça, à essayer de trouver peut-être une petite voie. Il existe des petites choses, des petits trucs ou des petits coups de main, des petites choses que je pourrais faire, ou dans la botanique, ou reprendre aussi un chemin que j'avais, que je m'étais construit aussi professionnellement, mais progressivement, chaque chose en son temps, après ce que...
Alors, oui, mais attention, parce que se mettre en pause, c'est bien, faire silence, c'est bien, mais à un moment donné, il faut aussi se mettre en action. Et avoir un projet, c'est comme construire un pont vers le futur, c'est ce qui nous permet de tenir et d'avancer. Si on n'a pas de projet, on a du brouillard devant, on n'a rien.
C'est un peu ce qui me manque, justement.
Et donc, attention de ne pas trop longtemps rester dans cette période pause et silence. Il y a un temps pour tout, il y a un temps aussi pour se mettre en action, même si c'est lentement, à son rythme.
Ouais. Le
simple fait d'avoir un projet, c'est vraiment se construire un pont pour avancer.
Ouais. Oui, c'est ça, c'est un peu ce que j'envisage, c'est-à-dire de remettre des petites choses en place progressivement et de voir ce que je peux en faire. Mais
il y a des blocages.
J'ai un peu peur que ça casse parce que je me sens pas tout à fait en sécurité là-dedans, quoi. Voilà. Mais ça, c'est aussi parce que à un moment donné, j'ai toujours été fonceuse, mais je me suis aussi cassée la figure dans différents domaines.
Mais c'est comme ça qu'on apprend, Charlotte.
Aussi.
C'est que comme ça qu'on apprend.
Ouais, c'est vrai.
On apprend toujours 10 fois plus d'une erreur que d'une réussite.
Hein. C'est vrai.
Parce que l'erreur, on la recommettra pas 2 fois.
C'est vrai aussi. C'est sûr. Sûr,
je pense que vous n'êtes pas loin de l'étape pas en avant,
non,
mais il vous faut
ouais,
quelque chose,
ouais.
Quelqu'un là, effectivement.
Une petite sécurité, effectivement.
Sur une thérapie courte, mais qui pourrait vous faire, vous permettre de vraiment faire un dernier nettoyage et de prendre l'élan dont vous avez besoin.
J'étais en train de me dire vers qui je pourrais me tourner, parce que vous... Dans quel type de thérapie je pourrais continuer avec une psychologue ou...
Ça dépend si vous souhaitez faire de l'EFT. Vous avez soit des psychologues qui pratiquent l'EFT,
soit des
hypnothérapeutes qui pratiquent l'EFT.
Éventuellement, ouais. Mm-hmm. Ouais. Aussi. Mais est-ce que... Oui, parce que justement, le lien que je pourrais effectivement faire, ça serait justement les deux, quoi. Le travail de psy puis de EFT, je ne sais pas si c'est compatible.
Si, bien sûr. Il y a de plus en plus de psychiatres, psychologues, psychothérapeutes qui utilisent à la fois le MDR et le EFT, hein, tellement ça fonctionne bien.
Ouais.
Mais il n'y a pas que, il y a aussi effectivement tous les hypnothérapeutes qui sont formés à ça.
Alors après, il y a aussi une question de surcoût, plus ou moins pour moi, mais je ne sais pas si ça fonctionne par forfait ou par... Enfin, ça, après, je pense que il faudrait que je tombe sur quelqu'un qui puisse me faire un, je sais pas comment ça fonctionne là-dessus, pour pas que ça me coûte de
ça,
trop.
Ça dépend vraiment des praticiens, ça je peux pas
C'est
vous
ça,
répondre
ouais.
comme ça. Dans quelle
Ouais.
région êtes-vous?
Je suis dans le 21.
Alors, c'est le 21, tout le monde se regarde en régie, diable.
Non, oui, le pardon, la région Bourgogne, pardon,
C'est
excusez-moi.
Bourgogne 21, d'accord.
Oui.
Pardon, je ne connais pas toutes mes régions de France comme ça sur le bout des doigts. J'en connais certaines, mais pas celle-là. Bourgogne, d'accord. Et près d'une grande ville ou dans une grande ville?
C'est en fait, je peux le dire, hein, j'habite Dijon, c'est
Oui,
voilà,
ça
c'est
va.
Plutôt assez grand. Ça
Voilà.
va, c'est pas.
Donc demandez aux pharmaciens, demandez aux médecins, ils savent ça.
Aussi,
Ouais.
ouais.
Demandez-leur des conseils dans ce domaine-là pour vous orienter vers quelqu'un qui pratique ça et qui peut
Ouais,
être accessible
d'accord.
pour vous.
Ok, ça
Hein?
marche. Ouais.
Et je pense
Ok.
qu'effectivement 2022 va être l'année du renouveau pour vous.
Je pense. Ouais, je le ressens, je le ressens, ouais, je l'espère fortement.
Vous avez déjà fait un sacré chemin depuis qu'on s'est parlé la première fois, Charlotte.
Oui, puis tout le monde me dit que je suis quand même un peu plus posée, un peu plus, voilà, je vois les choses autrement, mais j'ai fait mon petit truc, j'ai écouté tout autour de moi, je me suis servi aussi de tout ça pour en faire quelque chose, et maintenant c'est là,
Mais
et maintenant,
bravo,
ben...
bravo.
J'ai un peu plus qu'à j'ai plus qu'à distribuer les bonnes cartes si je peux dire ça comme ça.
Bravo pour ce chemin parcouru en tout cas.
Ben non, mais je tenais à vous le faire savoir et puis voilà quoi.
Merci de votre appel, Charlotte, et n'hésitez pas dans quelques temps à me redonner de vos bonnes nouvelles et me dire où vous en êtes sur ce chemin. Hein?
D'accord, j'y manquerai pas.
J'ai confiance
Merci
en vous,
beaucoup.
je suis sûre qu'il
Merci.
faut, il faut que vous l'ayez aussi cette confiance en vous.
Ouais. Tout à fait, mais je vais y arriver, il n'y a pas de raison.
J'en suis sûre. Je vous embrasse, Charlotte.
Merci beaucoup, au revoir.
Sabine Marin est à votre écoute sur Europe 1.
Et nous allons maintenant faire la connaissance de Lionel. Bonsoir Lionel.
Bonsoir Sabine. Mais je suis tellement content de passer à l'antenne avec vous.
Ah ben c'est gentil, je suis ravie de vous accueillir aussi.
Parce que je vous écoute tellement souvent et parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup de problèmes en fait depuis l'âge de mes 20 ans. Alors, je viens de Tarbes, enfin, je suis de Tarbes et.
Ça s'entend un tout petit peu.
C'est vrai?
Et c'est charmant d'ailleurs.
Oui. Alors, voilà, je suis de Tarbes et j'ai 47 ans. Et voilà, je suis quelqu'un qui. Bon, je suis quelqu'un d'extrêmement fidèle, quelqu'un de. Je suis quelqu'un qui a rencontré ma petite amie quand j'avais 19 ans.
Oui.
Et quand j'ai rencontré plusieurs petites amies avant, mais quand j'ai rencontré la mère de mes enfants, qui est devenue la mère de mes enfants plus tard.
Ouais.
Et j'ai commencé à être giflé pour des raisons un peu... je ne savais pas tellement pourquoi.
Attendez, vous
me
giflez, mais
pas.
Par elle?
Oui, par elle, oui.
Ah.
Oui, par ma nouvelle amie, qui s'appelle Céline. Qui m'a giflé. Alors, je ne comprenais pas tellement pourquoi au départ. Bon, je ne dis rien. J'étais très amoureux. Alors, j'avais laissé toutes mes petites amies. Alors, on allait dans les bals. Très bien. Je disais bonjour à mes ex-petites amies. Et elles me giflaient. Et bam, bam. Elle était un peu jalouse, un petit peu. Et donc, elle me giflait beaucoup.
Mais vous laissiez
elle me
faire,
tapait.
Vous
Pardon?
Vous laissiez faire.
Alors, oui, parce que j'avais pas tellement l'habitude de ça.
Ah oui, mais enfin, quand même.
J'avais 19 ans et je disais, waouh. Et alors, il y avait ma mère, un jour, qui est venue avec nous dans un bal. Et on est arrivé dans un bal. Je dis bonjour à une ex-copine. Et là, elle m'a mis un aller-retour. Et ma mère me dit, mais Lionel, pourquoi pourquoi tu te laisses gifler comme ça, quoi? Mais je fais, maman, je suis amoureux, quoi. Enfin, je me suis laissé faire. J'étais tellement amoureux de cette fille que je me suis laissé faire. Donc, les années ont passé. Bon, mais la vie a fait que je me suis mis en ménage avec elle, en fait. Mais c'était toujours des chiffonneries pour rien, pour des bêtises, quoi. Et j'étais toujours un homme battu. Bon, très bien. Et un jour, ma mère m'a dit, bon, c'est ma mère, c'est quelqu'un d'extrêmement gentil, d'extrêmement doux, mais qui m'a dit, Lionel, tu peux pas te laisser battre comme ça. Un jour, il va falloir te rendre. Je fais, me rendre? Mais elle me dit, quand tu prends des gifles, parce qu'elle me giflait devant ma mère ou mes amis.
C'est fou, normalement ça arrive jamais. Ça, normalement c'est toujours quand il n'y a personne pour être témoin de ça que ça se passe.
Exactement. Mmh. Et elle le faisait assez ouvertement. Et si vous voulez, elle le faisait devant ma mère ou mes amis. Si on faisait... un repas entre amis, si quelque chose ne lui convenait pas, elle me giflait devant tout le monde. Enfin, quelque chose d'extrêmement... Enfin, moi, je ne connaissais pas ce genre de choses.
Vos amis réagissaient comment à ce moment-là?
Alors, eh bien, ils étaient choqués.
Bah, y a de quoi,
ils étaient choqués et ils me disaient, Lionel, ne reste pas avec quelqu'un comme ça. Et alors, je me suis mis en ménage avec elle et elle me giflait toujours. Bon, mais voilà. Je me suis dit, bon, mais ça va se passer.
Mais comment elle se comportait après vous avoir giflé? Est-ce qu'elle était du genre à s'excuser, à vous dire je t'aime, pardon, je ne
le ferai
plus? Elle
était très, très douce. Très, très douce.
Donc, elle montait dans les tours et elle redescendait, quoi.
Voilà, exactement. Mmh. C'est quelqu'un qui... Elle avait perdu son père à 16 ans. Moi, je l'ai rencontrée, elle avait 17 ans. Et elle montait très, très vite dans les tours et redescendait. Et elle se raccrochait. Elle me disait, Lionel, ne me laisse pas. Ne me laisse pas comme ça. Non.
Une petite fille en crise, quoi.
Voilà, exactement ça. Exactement ça. Et donc, un jour, elle est tombée enceinte. Et là, moi, je voulais justement arrêter. Vous voyez la...
La quitter
la... Oui, je voulais la quitter. Vraiment. Et elle est tombée enceinte. Et là, ça a été quelque chose de très, 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 très compliqué. Parce que je savais plus où j'en étais. Je me suis dit... Alors, moi, je voulais pas le petit.
Mais attendez, est-ce que c'était un accident ou est-ce qu'elle s'est débrouillée pour tomber enceinte?
Alors non. Non, je pense pas que c'est de sa faute. On a fait ça, vraiment, c'est une bêtise entre nous, je pense.
C'était pas un piège, vous pensez?
Non, pas du tout. D'accord. Non, vraiment pas du tout. D'accord. C'est pas... Non. Et de ma connaissance, non. Mais je pense pas à l'époque. Vraiment, non. Et là, waouh. Et là, j'en parle à ma mère, et je me dis, maman, qu'est-ce que t'en penses? Elle qui m'avait dit, Lionel, si tu te fais taper, rends-toi. Parce que tu peux pas te laisser taper comme ça. Et là, je vais voir ma mère et elle me dit, Lionel, tu vas avoir un enfant. Il faut le garder, je suis ma maman. J'ai pas une situation stable. Et puis avec Céline, ça se passe pas très bien. Tu sais comment c'est. Elle me dit, ouais, mais un bébé. Alors, ça s'est confondu un petit peu dans ma tête
à
l'époque.
C'est son cœur de grand-mère qui a parlé, là.
Oui, exactement. Mmh. Oui, vous avez raison, parce que ma maman a eu 4 enfants, donc c'est vrai que c'est la maman qui a un peu parlé. Donc, on a fait un petit repas à la maison, et on a juste dit, voilà... on va avoir un bébé. Moi, j'avais la trouille parce que j'avais pas une situation super stable. Mais bon, et là, en fait, je vous le dis, en fait, ça fait, on ne s'est pas très bien entendu pendant tellement longtemps, mais tellement longtemps. En 2004, on devait, moi j'ai eu, je vous le dis, j'ai eu une aventure avec quelqu'un. Et là, elle a très très mal pris parce que je voulais la quitter en 2004 à peu près. Et là, elle m'a dit non, ne fais pas ça. Alors, je suis revenu avec elle et on a fait un autre enfant.
Alors, attendez, vous allez un peu vite. Quel âge avez-vous, Lionel, déjà?
Oui.
Je ne vous ai pas demandé ça.
J'ai 47, bientôt 7 ans.
Ah, vous êtes encore très jeune. Donc,
oui.
ce premier enfant que vous ne vouliez pas, comment ça s'est passé quand il est arrivé?
Mais en fait, il est arrivé, moi, je ne voulais pas. Je ne voulais absolument pas parce que j'ai eu sûr de quitter cette fille. En
oui,
fait,
mais là, du coup, vous l'avez accepté. Il est arrivé, donc comment ça s'est
géré
au quotidien ?
Je n'ai pas eu le choix. Enfin, je n'ai pas eu le choix.
Ben non, visiblement.
J'avais 20 ans et ma mère m'a dit « Mais si tu l'as, ça sera mieux avec ta femme. » Parce que je prenais des tartes à longueur de journée.
Mais c'est...
J'étais un homme battu.
Mais comment ça se fait que vous avez accepté ça si longtemps ? Parce que là, vous n'avez plus l'air amoureux du tout à cette époque-là.
Alors, à l'époque, j'étais plus amoureux. Enfin, plus amoureux, j'en sais rien. Je ne sais plus quoi à l'époque. Mais moi, je suis quelqu'un d'extrêmement sensible. Et c'est une fille qui monte, alors qui va être extrêmement maladroite. Et d'un seul coup, poum, elle tombe. Et c'est quelqu'un d'extrêmement amoureux.
Ouais,
et moi,
c'est quand même difficile de supporter tout ça. Vous n'êtes pas
voilà,
un punching ball.
J'ai du mal à faire le palier en fait entre ces montagnes en fait.
Mais alors cet enfant, vous l'avez aimé quand même ?
Bien sûr.
Oui.
Bien sûr.
Une fois qu'il a été là.
Alors oui, c'est compliqué parce qu'aujourd'hui il me le reproche un petit peu. Il a 23 ans aujourd'hui.
Est-ce qu'avec elle, ça s'est calmé quand elle est devenue maman ?
Non, pas du tout. Ça fait 25 ans qu'il y a des coups.
Mais attendez, comment elle se comporte avec son enfant ? Comment elle s'est comportée avec le premier ?
Alors, très bien, par contre.
Ah, c'est que vous, il n'y a que vous qui prenez des coups, alors ?
Voilà, exactement. Moi, je suis le punching ball. Et ses enfants, elle les aime beaucoup. Elle me tuerait pour eux. Et elle les aime d'amour. Mais moi, c'est compliqué.
Alors pourquoi en avez-vous fait un deuxième avec elle ? J'ai un peu de mal à suivre.
Alors voilà. Alors, si vous voulez, moi je suis quelqu'un d'un peu lâche. Quelqu'un d'un peu, de très sensible. Qui s'accroche un peu à l'amour. On me met une chanson d'amour. Moi, je fonds en larmes. Et donc, en 2001-2002, on était prêts à se séparer. Moi, j'avais rencontré quelqu'un. Je vous le dis franchement, j'ai rien à cacher. J'avais rencontré quelqu'un, on était presque séparés, et elle, quand elle a senti ça, elle s'est raccrochée, et là, waouh, j'ai fondu dans ses bras, et on a fait un câlin, je dis, est-ce que tu voudrais un autre enfant de moi ? Elle m'a dit oui. Et là, par magie, elle est tombée enceinte, quoi.
Oui.
Et donc, le petit est né, mais ça n'a absolument rien réparé.
Ah, mais un enfant n'est pas là pour résoudre les problèmes des parents. Hein. Ça ne marche pas comme ça ne marche jamais comme ça.
Vous avez raison, Sabine. Ouais,
les parents qui veulent faire un enfant pour arranger leurs problèmes, on le sait que ça ne fonctionne pas. Ça ne fait qu'aggraver les problèmes.
Mais quelle erreur à l'époque. Mais je ne le regrette pas parce que ce petit tout a 19 ans aujourd'hui. C'est un gendarme, un très beau gosse que j'adore. Le grand a fait une licence dans l'immobilier.
Oui, ils ont réussi, vos enfants.
Ils ont très, très bien réussi. Mais au jour d'aujourd'hui, moi et Céline, ben, c'est toujours de grands problèmes. De grands problèmes. Alors, je ne dis pas que... moi, je n'ai pas été... je ne veux pas dire je suis un gentil garçon. C'est vrai qu'un jour, ma mère m'a dit « Lionel, Céline te tape. À un moment donné, si tu l'aimes, il va falloir que tu lui rendes des coups. » Et là, j'ai dit « Waouh !»
C'est pas une solution, ça. C'est pas
non, non, exactement. Ma mère, c'est un ange. Hein. Alors, me dire ça, et c'est vrai que j'ai porté des coups sur ma femme. Et là, oh là 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 là, quel désastre. Mais quel déshonneur.
Vous étiez très immature tous les deux, finalement, j'ai l'impression.
Ah, mais carrément.
Vous avez fonctionné comme deux sales gosses. Hein. Oui, c'est vrai, l'image que j'ai, c'est vraiment ça.
Mais carrément, parce qu'aujourd'hui, on a donné rendez-vous à mes enfants. Donc, un qui est dans l'immobilier, qui a 22 ans. Et un petit gendarme qui a 20 ans. Et aujourd'hui, on s'est donné rendez-vous pour faire un peu le bilan de notre vie et puis le partage des liens de ce qu'on a pu faire.
Ça fait 27 ans maintenant, pratiquement.
Oui, c'est ça.
Ouais.
Oui, c'est ça, Sabine, oui, exactement. Et en fait, il y a mon fils de 23 ans qui m'a dit, putain, vous êtes vraiment des gamins. Vous êtes plus gamins que nous.
Oui, c'est ça.
Parce qu'on s'embête pour pas grand-chose. Au jour d'aujourd'hui, moi, je souffre beaucoup.
Mais en même temps, je comprends, Lionel, que vous souffriez, mais vous avez accepté pendant 27 ans d'être maltraité, c'est que quelque part, vous avez trouvé votre compte aussi, quand même.
Oui, parce que je suis un amoureux. Moi, quand j'aime, je ne fais pas semblant.
Et vous êtes plus amoureux de l'amour que de cette femme, j'ai l'impression.
Mais j'en sais rien, quoi.
C'est amoureux de l'histoire problème, que vous auriez aimé vivre avec elle, mais qui n'était pas vraiment la réalité. Hein. Parce que se faire taper dessus pendant 27 ans, il faut avoir la foi. Hein.
Oui, alors, le problème, c'est que Céline, quand je l'ai connue, était vierge. Et j'ai continué ma vie avec elle et je me suis dit, oh mon Dieu, si je la laisse, elle va rencontrer quelqu'un d'autre. Et je me suis dit,
Vous serez plus seule, c'est ça?
Voilà, c'est ça.
Oui, il y a aussi chez vous un côté très enfant. Lionel, si vous le permettez, on va continuer à discuter tous les deux.
Je vous en prie.
Mais après les informations. D'accord ? On va décortiquer un peu tout ça et puis voir un peu ce qui se passe maintenant et ce qui va se passer surtout dans votre couple plus tard. Donc ne bougez pas, je vous récupère dans quelques minutes.
Je vous en prie.
Merci beaucoup.
Europe 1, la libre antenne. Sabine Marin.
Merci d'avoir choisi la libre antenne d'Europe 1 pour accompagner votre soirée de samedi. Il nous reste une petite heure à passer ensemble. Ça veut dire que nous sommes en direct jusqu'à 1h du matin et que vous pouvez continuer à nous appeler si vous souhaitez prendre la parole. Vous faites simplement le 3921 et vous tomberez sur Nicolas ou sur Cindy qui vous guideront jusqu'à moi pour que nous puissions échanger. 3921 donc pour parler ce soir sur Europe 1 et puis pour intervenir par SMS, pour apporter un mot gentil, un soutien, une idée. Pourquoi pas demander à être mis en relation avec quelqu'un qui vous touche. Eh bien, vous faites simplement le 73921. Suivi du mot nuit et de votre message. Et j'en profite pour vous rappeler notre adresse mail libreantenne en un seul mot, libreantenne@europe1.fr.
Sabine Marin est à votre écoute sur Europe 1.
Lionel, je vous retrouve.
Oui, merci Sabine.
Alors vous nous disiez juste avant, on va faire un petit résumé, avant les informations, que vous avez rencontré il y a 27 ans une jeune femme qui en avait 17, vous en aviez vous 20, c'était ça à peu près?
Oui.
C'était un peu bizarre comme relation. Elle était très, on va dire, excessive, y compris dans ses gestes. Elle pouvait vous gifler facilement. Elle montait vite dans ses tours, vous me disiez, quelqu'un de jaloux.
Oui,
d'ailleurs, je me demandais si quelque part, ça ne vous a pas aussi un petit peu flatté de voir que vous étiez tout l'intérêt qu'elle déclenchait chez elle. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, le fait d'être qu'elle se batte pour vous, je dirais pratiquement. Si ça n'a pas aussi, à un moment donné, déclenché une certaine fierté.
Oui, peut-être, c'est possible.
Comme vous disiez, elle était jalouse quand je disais bonjour à une ex, elle me giflait. C'est un côté peut-être qui vous a...
Alors, moi je ne suis pas quelqu'un d'extrêmement très très beau gosse. Mais c'est vrai que ça me flattait, parce que je sais qu'elle est arrivée dans des balles, et quand quelqu'un m'abordait, je sais qu'elle avait tendance à venir s'interposer virulement, et c'est vrai que je disais « waouh, c'est cool ». Mais non, c'est pas cool en fait.
Mais non, c'est pas cool.
C'est pas très très cool.
Parce
non.
que si j'ai bien compris, bon an, mal an, vous avez tenu pendant 27 ans tous les deux. Vous avez fait deux enfants, mais ça n'a rien arrangé entre vous.
Non.
Vous êtes comporté, on le disait, comme un peu deux sales gosses qui s'arrachaient les cheveux.
Oui.
Et
exactement.
Aujourd'hui, le bilan de tout ça, c'est quoi? Vous en êtes où tous les deux? Parce que les enfants sont partis, j'imagine? Ils vivent leur vie?
Oui, alors les enfants, si vous voulez, on a acheté. Moi, je me suis mis dans l'immobilier. Si vous voulez, j'ai acheté trois ou quatre maisons où je me suis très très investi, je me suis gravement blessé au dos.
Ah.
Et donc avec ces bêtises, donc on a trois appartements qu'on loue. Et au jour d'aujourd'hui, moi je suis invalidé en deuxième catégorie, si vous voulez.
Ça vous est arrivé comment ça?
Mais en fait, avec des... moi, j'étais magasinier. Et en fait, avec les travaux à la maison, je me suis grandement blessé au dos, si vous voulez. Je me suis fait opérer trois fois du dos. Et la sécurité sociale m'a invalidé en deuxième catégorie.
D'accord.
Bon, très bien. Et donc, nous sommes dans une maison... qui est pratiquement fini. Il ne nous reste que la cuisine, si vous voulez, à finir. Mais les enfants, maintenant, ont grandi, sont partis, et on n'est que tous les deux, si vous voulez.
Mmh.
Et je pensais en me disant, bon, un enfant, bon, ça va passer. Deux enfants, ça va passer. Acheter la maison, ça va passer. Avoir une quelque chose pour la retraite, ça va passer. Non, ça passe toujours rien.
Elle est toujours en colère?
C'est quelqu'un d'extrêmement... c'est compliqué, quoi.
Elle n'a pas réglé ses problèmes, j'ai l'impression.
Je ne pense pas.
Mais oui.
Je ne pense pas. Alors, je lui ai dit souvent... Alors, moi, je suis quelqu'un d'expressif dans les mots. Je lui ai dit... oui, alors je suis très très vulgaire dans mes mots, hein. Je suis pas quelqu'un de sain, je veux pas dire qu'il y a que qu'elle dans la faute en fait, si vous voulez.
Oui, j'ai compris.
Mais je, si vous voulez, elle était vulgaire avec ses mots et ses gestes, et moi je lui rendais avec les mots. Mais j'étais très, très vulgaire. Vraiment, je ne me suis pas rendu compte. J'ai vraiment dit des mots très, très durs. Et en fait, au bout d'un moment, si vous voulez, on s'est retrouvés que tous les deux.
Mmh.
Et on s'est dit, bon, ben on a tout fait, quoi. Et il nous reste quoi, maintenant? Ben, les enfants sont partis, on n'a plus rien.
Mmh.
Et là, depuis une semaine... J'ai dit « Stop, Céline, on arrête, je m'en vais, je veux plus ça. »
Qu'est-ce qui s'est passé pour vous ayez ce déclic d'un seul coup?
Alors, c'est un déclic tout simple. vous avez rigolé, mais on a été ramasser des champignons. J'ai ramassé des champignons pendant deux ou trois mois. J'en ai donné à elle. J'en ai donné à sa famille, sa mère, tout ça. Très bien, tout allait bien. On en a congelé, tout allait bien. Et là, Le dernier week-end, son fils, notre fils, est descendu d'Angers, est venu chercher les champignons avec sa mère. Ils en ont trouvé une petite poignée. Et en fait, bon, moi, je les ai fait cuire. Et là, c'était la révolte. Elle a pas du tout compris. Elle me dit, c'est pas à toi, c'est à nous. C'est... Waouh, j'ai été mis complètement à part.
Elle est partie en crise pour rien, quoi.
Oui, voilà. Mm. Mais pour pas grand-chose.
Et là, mais c'est son mode de fonctionnement, vous l'avez compris. Maintenant, elle ne changera pas. Hein. Si elle n'a pas envie de changer, elle ne changera pas.
Non. Ça fait 25 ans que c'est comme ça, ouais. Je le sais. Elle fonctionne comme ça. Sa mère est comme ça, donc j'ai très bien compris.
Est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'elle a eu une enfance perturbée, perturbante?
Alors, je sais qu'elle a perdu son papa à 16 ans, quand elle avait 16 ans, et je l'ai rencontrée, moi, elle avait 17
oui,
ans.
Oui, ça vous m'avez dit, mais à part ça, est-ce qu'il y a eu des traumatismes ou des choses qui peuvent justifier un caractère comme ça aussi virulent?
Non, pas du tout.
Non?
Vraiment pas du tout. Mmh. Je sais que sa mère est très, très virulente. Elle peut monter dans les tours. On dit maintenant, les gens, ils sont, vous savez...
bipolaires.
Oui, bipolaire. Mais quand j'ai dit ça à ma femme, je fais « Mais t'es bipolaire, un jour ça va, un jour ça va pas. » Elle s'est mise complètement en colère contre moi. Bon, elle est aide-soignante, hein. Elle travaille en vous savez, les...
Dans quel secteur
et c'est ce que je cherche.
En psychiatrie
Non. En réa, voilà, pardon.
En réa.
Waouh, j'ai trouvé. C'était, elle travaille en réa, et donc, voilà, il n'y a pas d'autre chose. Mais sinon, elle a un comportement très, très déséquilibré par rapport à moi.
J'espère qu'elle n'est pas comme ça avec ses patients, hein, vous imaginez? À coup de baffe.
Je sais pas, Sabine, j'en sais rien.
Non, j'imagine qu'elle aurait été virée il y a longtemps si elle faisait
non,
ça.
Non, ouais, je sais qu'elle aime beaucoup son travail. Et voilà. En fait, bon, je vous appelle aujourd'hui, en fait, c'est parce que ça déséquilibre complètement mon couple. Et bon, mon couple, il est foutu. Ça fait 6 mois qu'on dort plus ensemble. Qu'on a plus de relations. Mmh. Mes enfants, il y en a un qui est âgé, qui est gendarme, il revient tous les 6 mois.
Ils vivent leur vie, c'est normal. Hein.
Ouais, voilà. Et il y en a un grand qui est à Tarbes, qui a 23 ans. Bon, voilà, ils vivent leur vie, mais nous, c'est foutu.
Comment est-ce qu'elle a réagi quand vous lui avez dit que vous souhaitiez divorcer?
Alors là, ça a été très mal. Et d'ailleurs, cet après-midi, elle ne pensait pas. Je lui ai dit, écoute, Céline, il faut arrêter. On est des adultes. Il faut qu'on vive notre vie. Vendre les appartements, quelque chose comme ça, quoi. Bon, oui, très bien. Et là, quand son fils est venu, qui travaille dans l'immobilier, il a mis tout à plat. Et là, on voit. J'ai vu son visage changer, comme si elle ne se rendait pas compte du moment présent. Et là, elle a tout changé dans la chambre. Elle m'a dit, écoute, toi tu vis dans cette chambre, je t'interdis de rentrer dans la mienne maintenant. Vous voyez? Comme une enfant qu'on avait engueulée.
Bah, elle est blessée, mais est-ce que concrètement, vous êtes vraiment prêt à aller au bout de cette séparation?
Moi, oui, certain.
Bon, ben alors voilà.
Voilà, je suis certain de ça. J'en ai prévenu mes parents. Je ne l'avais jamais fait avant. J'ai prévenu ma famille. Et je lui ai dit, je fais écoute, je vais prévenir tout le monde. Je mettrai un terme à tout ça. Mais avec les biens immobiliers qu'on a et tout ça, c'est compliqué, quoi.
Mais il faut un bon avocat, c'est certain, hein, qui s'occupe de gérer
oui,
tout ça.
Oui, c'est ça.
Bien sûr.
Vous rendez compte, un avocat, entre nous. Oh, là, là.
Bah, quand on divorce, je suis désolée, Lionel, mais c'est par là que ça passe.
Ouais, mais Sabine, on n'est même pas mariés.
Ah, alors, il faut voir sous quel régime vous avez acquis les biens immobiliers aussi.
On n'est même pas paxé. Ouais. Mais en fait, ce que je voudrais, moi, c'est juste, je m'en fiche des biens, c'est retrouver quelqu'un de bien, retrouver l'amour. Voilà. Juste simplement. Voilà, Sabine.
Il faudrait déjà peut-être finir cette relation proprement.
Ouais, alors ça, c'est compliqué. Hein. Il va falloir finir les fêtes de fin d'année. Et parce que, en fait, moi, quand j'ai dit à mon fils, je veux pas léser maman, je veux pas me léser moi, on fait tout, tout bien. Et mon fils m'a clairement dit, si tu fais quelque chose à maman, je te parle plus jamais de ma vie. Et là, ça m'a fait mal tout à l'heure, quoi.
Mais il la protège. Mais moi, ce qui m'inquiète un peu plus, c'est elle. C'est-à-dire qu'elle pourrait tout à fait un jour dire blanc et dire noir le lendemain, quoi.
Exactement.
C'est pour ça que je parle d'un avocat pour verrouiller les choses, quand même, concrètement, que les choses soient dites soient validées. Parce qu'elle peut vous dire oui le lundi et vous dire le mardi, je t'ai jamais dit ça, je suis pas d'accord.
Donc ça, c'est insoluble. Alors, vous l'avez totalement compris, parce que c'est exactement ça.
Oui.
C'est aujourd'hui, elle me dit quelque chose. Et elle me dit, mais non, mais tu n'as pas compris comment je te l'ai dit. Oh, furieux. C'est toujours comme ça.
Non, c'est là qu'il faut qu'il y ait une tierce personne qui intervienne pour vous. Sinon, vous n'allez pas vous en sortir, sinon.
Ouais, ça fait 25 ans.
Oui, mais là, vous voulez mettre un terme à ça.
Moi, oui, certain.
Bon, ben voilà. Donc, si vous allez au bout de cette démarche-là, il faut vous faire aider, vraiment. Que les choses, que chaque chose soit stipulée par écrit.
Ouais.
Sinon, elle va vous rendre fou, sinon.
Ah non, mais c'est dingue, c'est fou. Fou. Je veux pas, en fait, qu'elle mette mes enfants là-dedans. Vous voyez, il y a le petit jeune, il a 20 ans, il est gendarme. Bon, il était là cet après-midi, il nous regardait les yeux écarquillés, il savait pas trop quoi faire. Et le grand, il disait, papa, maman, il va falloir peut-être même vos biens en SCI. Et quand il a vu que ça s'enflammait, il a dit comme ça, waouh, vendez, parce que ça va pas entre vous. Et il est venu me voir, il me dit, papa, si tu fais quelque chose à maman, je te parle plus jamais de ma vie, quoi. Waouh, purée, qu'est-ce que je mérite? Je mérite pas ça, quoi. Enfin, déjà, je suis quelqu'un d'extrêmement sensible et je prends tout à cœur. Et là, mon fils qui me dit ça, waouh, purée, c'est fou.
En même temps, il a pas tort non plus. Il faut que vous fassiez attention à tout ce qui va se passer et attention à elle et à vous. Mais à un moment donné, il faut vraiment être dans le concret parce que j'ai l'impression que vous faites un pas en avant, un pas en arrière dans cette histoire aussi, même maintenant.
Exactement, ouais. J'ai toujours eu peur pendant 25 ans de lâcher, de partir ou rompre, en fait. Je suis un peu lâche, J'ai toujours été lâche un petit peu dans ce couple. J'ai toujours eu peur. J'ai toujours été très amoureux.
Mais là, vous n'êtes plus amoureux aussi?
Non.
Alors, de quoi avez-vous peur?
J'ai peur de mes enfants. J'ai peur parce qu'ils sont tellement amoureux de leur mère.
C'est normal pour des enfants d'aimer leur mère, mais si vous la traitez correctement, s'il n'y a pas d'entourloupe, que vous êtes correct jusqu'au bout, il n'y aura pas de problème avec les enfants.
Oui, c'est vrai. C'est vraiment ce que je voudrais. Et qu'on puisse refaire notre vie un petit peu bien.
Il est temps que vous grandissiez chacun de votre côté.
Ouais. Vous avez raison.
Ensemble, j'ai l'impression que vous n'y avez pas réussi à grandir, en tout cas. Vous avez maintenu une relation très...
Ouais, deux gamins, de gamins, qu'on fait des enfants.
Et oui, les enfants font des enfants aussi, quelquefois.
Oui, non, mais c'est vrai, mais purée.
Faites ça proprement, Lionel. Faites-vous accompagner par un pro, un juriste ou un avocat. Faites les choses en douceur, et puis vraiment, je pense que l'un et l'autre, vous avez besoin de prendre un élan différent maintenant.
Bon, très bien.
Pour grandir.
D'accord.
Je vous souhaite le meilleur, Lionel, vraiment.
Merci, Sabine. Vraiment, merci beaucoup.
Prenez soin de vous.
Au revoir.
Laissez votre message à Sabine Marin au 739 21. 75 centimes plus coût du SMS.
Et c'est Florence qui arrive à l'instant sur notre libre antenne. Bonsoir, Florence.
Bonsoir, Sabine, et bonsoir à tous les auditeurs.
Soyez la bienvenue, Florence.
Merci.
Merci, c'est un plaisir de vous entendre.
Myriel, partagez, qu'est-ce qui vous amène?
Super. Bien écoutez, je souhaite, dans le cadre du Téléthon, je souhaite vous faire part d'un témoignage d'espoir à travers ma propre expérience.
Oui, avec plaisir.
Par quoi commencer? Bien écoutez, à l'âge de 4 ans, donc avant l'âge de 4 ans, j'avais une enfance tout à fait ordinaire, donc jusqu'à l'âge de 4 ans. Et à l'âge de 4 ans, j'avais des premiers symptômes qui ont commencé à apparaître. Donc peu à peu, j'avais tendance à tomber, alors qu'à l'âge de 4 ans, tous les enfants sont extrêmement actifs. Ils courent, ils explorent, et moi, j'avais du mal enfin, mes jambes avaient du mal à me porter, elles ne me portaient plus. Oui. Donc, peu à peu, je commençais à ne plus parvenir à m'habiller, sans ne plus pouvoir lever mes bras. Donc, ça, c'est le récit de la mémoire de mes parents, le récit qui a été fait aux médecins qui m'ont vu plus tard, puisque forcément, ils ont vu que quelque chose n'allait pas, et ils ont cherché ce qui se passait à travers des consultations. Donc, j'ai dû subir de nombreux examens médicaux. J'ai dû voir de nombreux professionnels de santé. On ne savait pas ce qui se passait.
C'était en quelle année? Quel âge avez-vous aujourd'hui?
Moi, j'ai 35 ans aujourd'hui.
Ah, donc c'est relativement récent, d'accord.
Oh, vous trouvez?
Oui, ce que je veux dire, c'est que c'était quand même pas il y a 50 ans. Au niveau de la recherche médicale et des avancées, c'était quand même plus près d'aujourd'hui que de la génération d'avant.
Absolument. C'était la fin des années 80.
D'accord.
Et voilà, donc jusqu'à l'âge de 4 ans, donc j'ai été diagnostiquée d'une myasthénie. C'est une maladie neuromusculaire auto-immune.
Ouais.
Pour faire simple, c'est une maladie qui induit une faiblesse musculaire, ce qui expliquait mes chutes et le fait que mes jambes ne me portaient plus. Donc c'est une maladie qui induit une faiblesse musculaire qui peut aller jusqu'à la paralysie.
Et oui, donc j'imagine aussi problème pour manger, pour respirer.
Exactement.
Et oui, c'est ça, c'est tout.
Exactement. Donc chez moi, justement, ça a touché mes muscles articulatoires, c'est-à-dire ceux qui permettent de parler, ceux qui permettent d'avaler, puisque ce sont à peu près les mêmes dans la même zone.
Oui.
Il y avait également les muscles de mes bras et de mes jambes. Et par conséquent, je me déplaçais en fauteuil roulant. Je ne communiquais que très difficilement avec les autres et j'étais comme confinée dans mon corps, finalement, vraiment. Et mes parents ont fait des recherches, de longues recherches, et dans la fin des années 80, il n'y avait pas Internet comme aujourd'hui. Et donc, ça a été une période extrêmement difficile pour moi, et donc ça a duré des années. Hein. Je suis tout de même entrée en maternelle, et du point de vue scolaire, et d'ailleurs, ça m'a sauvée, hein, du point de vue scolaire, c'est l'école, donc les performances scolaires, l'école et la lecture ont été des échappatoires. Donc voilà, il y a eu de l'errance diagnostique, clairement, puisque la myasthénie n'était pas aussi connue qu'aujourd'hui.
D'accord, mais intellectuellement, que je comprenne bien intellectuellement, ça, il y avait une dégénérescence ou pas du tout?
Pas du tout. Justement, je performais du point de vue scolaire et c'était une échappatoire.
D'accord.
La lecture et l'école ont été... Ça a relativement sauvé mon enfance, hein, clairement.
Ouais.
Et donc voilà, mes parents ont fait des recherches jusqu'à ce qu'ils m'emmènent dans un centre parisien, puisque je viens d'une ville de province. Et du coup, dans ce fameux centre qui était bien plus performant que cette petite ville de Provence, on a pu m'aider, puisqu'il faut savoir qu'entre-temps, la maladie s'est aggravée. Mes muscles pulmonaires, comme vous l'avez signalé tout à l'heure, mes muscles pulmonaires ont été touchés et je ne pouvais plus respirer. Or, vous le savez, Sabine, ce qui nous retient à la vie, c'est le souffle.
Mmh.
Donc très tôt dans ma vie, j'ai eu cette conscience de... de la possibilité de mourir, hein, finalement.
Et quel âge avez-vous à ce moment-là, quand on vous amène à Paris?
J'avais environ 9 ans.
Oui,
il me semble que j'avais 8-9 ans. J'étais
petit bout de fille encore. Hein.
Absolument. Une enfant qui a vécu des choses extrêmement intenses dans cette courte période de vie. Et voilà, donc du fait de ces insuffisances pulmonaires, enfin de ces difficultés à respirer, j'étais admise à plusieurs reprises en réanimation pour être mise sous assistance respiratoire.
Quel parcours, mon Dieu, pour vous et pour vos parents?
Oui, je me souviens, lorsque je faisais mes crises, en effet, ma mère qui pleurait, qui était horrifiée, il fallait appeler le SAMU, enfin, c'était extrêmement difficile et extrêmement violent aussi, hein, puisque les soins, enfin, les intubations, les soins en réanimation sont extrêmement difficiles.
Vous aviez des frères et sœurs?
J'ai un frère, en effet, qui est toujours, d'ailleurs, en bonne santé.
Il était plus grand, plus petit que vous?
Plus grand que moi. D'ailleurs, lorsque je ne parvenais pas à articuler, il a listé sur un bloc-notes l'ensemble des phonèmes, enfin l'ensemble des sons que je ne pouvais pas prononcer. Et il le faisait, son petit compte-rendu, âgé de 12 ans, au médecin qui me disait, ouais, mais c'est mignon. Hein.
C'est protecteur,
voilà, un frère en or. Et du coup, il a participé de façon extrêmement mature à ses soins et à mon diagnostic.
Oui, c'est pas évident pour la fratrie hein, quand il y a un enfant malade comme ça.
Oui, puisque l'enfant malade prend toute la place, étant donné que les parents sont psychiquement pris par cette maladie, les inquiétudes que ça génère, clairement.
Et puis matériellement, tous les allers-retours et tout ce qu'il faut faire, en plus, bien sûr.
Oui, vous avez tout compris, c'était très dur. Clairement, ça l'était.
C'est beau que votre frère ait été partie prenante comme ça, je trouve, aussi jeune.
C'est incroyable, hein.
Quelle maturité il a dû avoir aussi, lui.
Oui, ça fait clairement grandir. Hein. Je pense que cette épreuve nous a tous fait grandir.
Donc là, vous arrivez à Paris. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez 9 ans.
Voilà.
Qu'on dit à vos parents?
Ce qu'on dit à mes parents, c'est qu'on va pouvoir me prendre en charge de façon plus adaptée, plus adéquate.
Ouais.
Et clairement, j'ai pu bénéficier de l'éclairage de grands professeurs, etc. Et j'ai pu obtenir des soins qui m'ont permis d'aller mieux. Donc ça a été une intervention chirurgicale. Bon, après, les soins ont aussi été difficiles, hein, puisque ça induit... Enfin, l'affection auto-immune que j'ai eue induisait des perfusions d'immunosuppresseurs qui avaient des effets secondaires, et là pour le coup je ne l'oublierai pas puisque ces effets secondaires étaient difficiles à supporter, c'était des migraines intenses lorsque je sortais des perfusions, des nausées, c'est des douleurs articulaires, donc des douleurs articulaires, et ça pour le coup c'est extrêmement difficile. Après je prenais également de la cortisone qui faisait gonfler, enfin du point de vue de l'image corporelle, enfin à l'entrée.
C'est pas le tout dire. Il y a un traitement, mais il faut penser à tout ce que ça, tout ce que
absolument.
Les effets extérieurs, les effets secondaires bien sûr. Oui.
Tout à fait. Le but était de me sauver la vie, mais à quel prix effectivement ça a été extrêmement violent. Donc voilà, en tout cas, ce traitement a fonctionné, l'intervention chirurgicale, qui m'a quand même laissé une longue cicatrice. Hein. Après,
qu'est-ce qu'on a fait dans cette intervention chirurgicale?
On a fait ce qu'on appelle une thymectomie. C'est une ablation du thymus. Le thymus contribue au système immunitaire. C'est une glande qui permet de... une glande qui génère les lymphocytes, si je suis suffisamment claire. Et le fait de le retirer permet d'affaiblir le système immunitaire, puisque l'affection auto-immune induit que le système immunitaire se retourne contre les propres cellules. Absolument, une surstimulation. Et les immunosuppresseurs permettent de calmer cela, ainsi que la thymectomie. Mais j'ai quand même une cicatrice très très visible sur le thorax. Donc effectivement, bon, maintenant ça va mieux, hein, je ne complexe plus, mais durant mon adolescence ça a été extrêmement difficile et ça a été une cicatrice, certes.
J'imagine. Est-ce que c'était récent comme trouvaille médicale, cette intervention chirurgicale, ou c'était déjà quelque chose d'un peu pratiqué?
Là, je ne saurais pas vous le dire, pour le coup, je ne saurais pas vous le dire du tout. Ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, il m'a fallu... crapahuter pas mal, enfin du moins mes parents, pour pouvoir obtenir ce type d'intervention qui finalement m'a sauvé la vie, puisque je vais mieux aujourd'hui, j'ai été mieux plus tard. J'ai effectivement dû après réapprendre à maîtriser mon corps.
C'est que l'intervention a suffi, il n'y a pas eu de traitement derrière particulier?
Il y en a eu, clairement il y en a eu. C'est une affection auto-immune, donc la plupart des traitements sont symptomatiques.
D'accord.
Il y a eu du traitement derrière. Il y en a eu, aujourd'hui j'en ai beaucoup moins, clairement j'ai une vie normale, mais il y en a quand même eu parce que c'est un traitement symptomatique. Donc si on arrête tout, si j'arrête mon traitement, donc c'est du comprimé à prendre à quelques reprises par jour, et pour le coup ce n'est pas grand chose au regard de ce que j'ai traversé
bien
dans mon enfance.
Qu'est-ce que vous avez retrouvé en premier?
Qu'est-ce que j'ai retrouvé en premier? La marche. Attendez. Donc, ça a été retrouver la déglutition, ensuite l'articulation.
La parole, oui.
Absolument, donc communiquer. Après la marche, ça c'était chouette, c'est le fait de retrouver de l'autonomie.
Vos parents devaient être dans un état de joie, de bonheur à ce moment-là?
Absolument, oui, clairement.
clairement, ils étaient extrêmement ravis. Pour le coup, ça a été une grande joie. J'en ai parlé récemment avec mon père. Il m'a dit, mais jamais à l'époque où tu étais enfant, on aurait cru que tu deviennes une femme aussi accomplie dans une carrière, etc. Mais c'était pour lui de l'ordre du miracle. Et là, pour le coup, c'est bon d'entendre ça, même en tant qu'adulte. C'est juste énorme en tant que parent d'entendre ses parents vivre ça. Enfin, là, je peux imaginer ce qu'ils ont pu ressentir. Et c'est une douleur atroce que de voir son enfant souffrir comme ça et de ne pas être sûr qu'il puisse survivre, parce que j'ai quand même été aux soins intensifs à plusieurs reprises avec un pronostic vital.
J'allais dire,
en
oui,
jeu
c'est
à
ça.
Plusieurs reprises.
Ça a été vraiment à l'extrême limite à chaque fois.
Affreux. Donc cette notion de mort, je la connais c'est vraiment terrible de manquer d'oxygène, parce que c'est vraiment ce qui nous retient à la vie, et c'est en termes de minutes.
Est-ce que vous savez combien d'enfants souffrent de cette maladie chaque année?
Mais écoutez, ça je l'ignore. Oui, par contre, la myasthénie est une maladie rare. Clairement. Mmh. Et c'est une maladie qui apparaît chez les jeunes femmes d'environ 20 à 40 ans. Donc non seulement c'est une affection rare, mais à mon âge, apparaître de façon aussi précoce, c'est rarissime.
Ah,
c'est la raison pour laquelle on a dû chercher longtemps ce que j'avais.
À 4 ans, normalement, ça n'arrive jamais, ça.
Ça peut arriver, c'est ce qu'on appelle les formes...
Précoces ?
Ce sont des noms congénitales. On appelle cela une myasthénie congénitale. Et pour mon cas, ce n'était pas le cas. Ce n'était pas une myasthénie congénitale, c'était une myasthénie, et ça l'est toujours, une myasthénie auto-immune, ce qui est différent.
D'accord.
Ouais, donc là, pour le coup, c'est infiniment rare, et c'est extrêmement rare. Et je pense qu'il y a très peu d'enfants qui ont eu la même affection que moi. Et d'ailleurs, quand j'étais ado, je cherchais des personnes comme moi, des jeunes, mais la plupart du temps, les associations, donc c'est l'AFM, hein, l'Association française contre l'homéopathie, était composée de familles myasthéniques, mais plus âgées, qui avaient une cinquantaine, une soixantaine d'années. Hein. Donc, rarement vu des ados.
Vous parlez, ça n'attaque que les femmes, d'après ce que je comprends?
Beaucoup plus femmes que les hommes, mais je crois que la prévalence s'inverse avec l'âge. Plus on avance en âge, plus ce sont les hommes. Mais là, ce sont des approximations, et je vous inviterai à vérifier les chiffres quand même.
Et quel est le pourcentage de risque de décès pour les gens à qui on apprend ça quand ils ont 30, 40 ans, 50 ans? C'est élevé?
Non, c'est pas. Poser une colle, là. Non, j'en ai aucune idée.
Qu'est-ce que vous disiez à les médecins? Est-ce qu'ils avaient l'espoir que vous puissiez guérir un jour, ou ça leur semblait absolument impossible?
Je me souviens que j'avais fait un questionnaire pour le médecin, le pédiatre, c'est un neuropédiatre qui me suivait, étant enfant, et il m'a dit non, tu ne guériras pas, c'est incurable. Et là, c'est entré dans mon cœur comme un poignard, j'imaginais, à ne pas pouvoir jouer, parce qu'à l'époque, j'avais pas de tonus, donc à ne pas pouvoir jouer avec les autres. Enfin, à ne pas avoir de vie forcément classique. Mais là, étant enfant, je pensais jouer à la marelle comme les autres ou à la corde à sauter. Hein. Ce n'était pas non plus une carrière ou quoi que ce soit. Mais c'était juste être comme les autres enfants, tout simplement. Et ça, manifestement, sur le moment, ce n'était pas possible.
Oui.
Ouais, c'était terrible.
Mais c'est souvent des phrases qui sont dures à entendre.
N'est-ce pas?
Programmation négative qui n'est pas utile, je pense.
Oui, mais Et j'avais un état d'esprit qui a pu dépasser ça. Donc, clairement, je ne me suis pas arrêtée à ce type de prophétie qui n'est pas autoréalisatrice en ce qui me concerne, clairement.
Donc, vous avez commencé à retrouver la respiration, la déglutition, la parole, la marche, et puis petit à petit toutes vos facultés?
Oui, et l'autonomie, et ça a été vraiment extraordinaire.
Plus de fauteuil?
Non, plus de fauteuil.
Ah, voilà.
C'est chouette. C'est extraordinaire d'avoir un corps qui fonctionne. Je ne sais pas si les auditeurs peuvent s'imaginer ça, mais il faut l'avoir vécu pour ne serait-ce que l'envisager, parce que...
Et non, c'est comme tout, on n'a jamais conscience de ce qu'on a.
Eh ouais, et c'est terriblement... c'est bon, quoi, c'est terriblement... C'est bon d'avoir un corps qui fonctionne, j'avais l'impression, plus j'étais ado, vous savez, l'âge auquel on explore son corps, mais pour moi, je découvrais toutes ces facultés que je retrouvais, et c'était vraiment chouette, parce qu'il s'agissait pour moi d'être comme les autres, même si j'avais des particularités physiques, mais j'étais autonome, et c'était chouette de pouvoir enfin refaire du sport, enfin monter, descendre des escaliers.
Quelle particularité physique mentionnez-vous, là?
Ce que j'avais, ma cicatrice.
Ah oui.
Très longue cicatrice que je cachais avec des chemises boutonnées jusqu'au dernier bouton, là. Ouais. Donc vraiment cachée, et mes amis et moi, je me souviens, au lycée, la mission, c'est d'aller chercher un maillot de bain, quoi, qui qui me cachait cette cicatrice et il s'agissait vraiment de la dissimuler. Bon, maintenant, je suis passée au-dessus, hein, ça m'est égal, mais ça a été quand même un complexe durant mon adolescence.
Oui, c'est ça.
Et,
c'est plus difficile pour une jeune femme.
Oui, oui, non, mais j'ai bien grandi, hein, j'ai changé. Il s'agit d'accepter son corps, puisque désormais, donc avec l'âge, hein, certainement, la maturité, on n'est plus en paix avec son corps.
Et puis vous lui devez bien ça, après tout le beau cadeau qu'il vous a fait. Hein.
Pardon ?
Vous lui devez bien ça, de l'accepter tel qu'il est.
N'est-ce pas ? Ah, mais il fut une époque où je le considérais comme une machine, puisqu'il devait fonctionner. Et le fait d'avoir pratiqué la méditation de pleine conscience, je l'ai apprise il y a environ 6-7 ans et ça a été une véritable révolution dans ma vie.
Il me semblait bien, vous écoutant, qu'il y avait quelque chose d'assez centré là, oui.
Ouais, et du coup, voilà, la méditation m'a aidée à me réconcilier avec ce corps que je ne considérais plus comme une machine à sculpter, une machine qui devait faire preuve de performance. Mais là, j'avais cette envie et cette prise de conscience de prendre mon corps tel qu'il était, dans sa globalité, et d'accepter ses failles, d'accepter...
Votre corps, c'est vous, surtout.
Les limites. Ouais, absolument.
Et là, c'est pas un personnage extérieur, c'est vous.
Voilà, exactement. Du coup, c'était vraiment m'accepter dans cette globalité, et c'est vraiment une autre approche du corps qu'on a, puisque là, pour le coup, c'est moi, mes cicatrices, et toute mon histoire... qui fait partie de moi, en fait. C'est juste important d'être en relation avec son propre corps. Parce que je n'étais pas, hein, d'une part, et là, je vais reprendre ce que vous disiez à votre, lors de votre introduction, que l'on a tendance à être des êtres d'émotion. On est aussi des êtres de corps. Et parfois, effectivement, on peut nous amener à nous couper de nos émotions dans le cadre de notre éducation.
C'est
on
le corps qui s'exprime, d'ailleurs.
Fort. Absolument, c'est le corps qui s'exprime.
Il faut que ça ressorte, hein.
Oui, non, mais c'est dingue. Et justement, en tant qu'enfant qui a été malade, on m'a souvent dit il faut que tu sois absolument forte, serre les dents, effectivement, ça fait mal, mais ne pleure pas, etc. Et c'est très dur d'entendre ça. Et c'est en cela que j'ai considéré mon corps comme une machine pendant un certain temps, qui était dans la performance et l'esthétique. Et là, ce n'est pas ce type d'affirmation qui est très aidante dans la structuration d'un enfant. Et comme je viens de vous le dire, la méditation a été extrêmement précieuse pour moi, parce que là, pour le coup, c'est juste moi, mon corps et toute cette globalité que je ressens avec mes émotions, cette part émotionnelle qui est essentielle.
Vous n'êtes plus dissociée.
Et non, je ne suis plus dissociée, et j'adore. Et c'est en ça que...
C'est en ça que je retrouve l'équilibre. Et oui, bien sûr.
Et c'est nécessaire. Hein.
Là, vous prêchez pour ma paroisse, là.
ouais, bah, tant mieux. Non, mais c'est un plaisir, effectivement, de sentir que d'avoir cette même longueur d'onde. Et du coup, c'est bien de le transmettre, notamment à d'autres personnes qui peuvent être dans la douleur et qui ont cette tendance à cliver le corps et le soi, en fait. Et ça, c'est dommage de ne pas se considérer comme une globalité.
Parce qu'on a tendance à détester ce qui nous fait du mal. Comme les gens qui sont en surpoids, qui disent « je déteste » et qui se pincent le ventre et qui vous disent « je déteste mon corps ».
Absolument.
Et les gens qui sont malades, qui disent « mais c'est pas juste », donc ils se mettent à détester ce corps qui ne fonctionne pas. Et malheureusement, c'est le pire moyen de... On peut pas avancer si on n'est pas réconcilié avec soi-même. C'est impossible.
Absolument. Oui, c'est nécessaire de se réconcilier avec soi-même, d'apprivoiser ce corps, parce que c'est un cheminement intellectuel. Et là, pour le coup, c'est beaucoup ce que je dis à des personnes que j'aide, parce que il est nécessaire de se respecter. Après, ne pas s'aimer, enfin, c'est deux choses différentes, mais le fait de se respecter est très important, parce que notre corps, c'est nous, et on vivra jusqu'au dernier jour avec, qu'on l'aime ou pas.
C'est le seul véhicule qu'on a pour traverser la vie, hein.
N'est-ce pas ? Il sera constamment là pour nous et c'est un allié. Il faut savoir l'écouter parce que quand on est en relation avec soi-même, ses ressentis, ses intuitions ne mentent pas. Le corps ne nous ment pas. Il est d'une loyauté. Enfin, c'est nous, quoi. Nos émotions sont nôtres et dès lors qu'on sait les entendre, qu'on sait les écouter et en faire quelque chose et prendre ses décisions à partir de ça, en général, on est dans le bon et on est très, comme vous disiez, axé. Mais en tout cas, on sait qu'on a pris la bonne décision.
Et oui. Et d'ailleurs, quand on arrive à ce stade-là, quand on a une décision à prendre, il suffit juste d'écouter son corps. Les quelques secondes qui suivent la prise de décision, on sait si c'est OK ou si c'est pas OK.
Oui, le corps nous dit. Non, mais c'est absolument vrai. Mmh. Et quand je dois prendre une décision importante, lorsque je suis face à un dilemme, je prends un petit moment au calme pour me centrer, prendre un petit temps de respiration et de méditation.
C'est le secret, ça.
Oui, c'est le secret. Hein. Et l'esprit est plus clair. Et pareil, hein, le corps nous parle, notamment lorsque l'on fait des mauvais choix amoureux. Enfin, je pense à un auditeur que vous venez d'avoir récemment. Enfin, je ne me permettrai pas de juger. Mais le corps sait quand, enfin, le corps s'exprime en tout cas lorsqu'on a fait une rencontre et qu'on ne le sent pas, on ne sent pas cette personne, ou quand on se sent un peu mal après avoir rencontré un proche, on sait.
Et quand on dit j'ai la boule au ventre, bien sûr.
On le sait, hein.
Il y a plein d'expressions qui prouvent que le corps s'exprime. Le mal de dos, bien sûr. Le mal de dos et surtout cette fameuse boule qu'on a dans la gorge ou sur l'estomac.
Ouais.
C'est coincé, ça passe pas. Qu'est-ce qui ne passe pas? C'est mon corps qui me dit quelque chose, mais mon corps, il dit quoi? Il parle de mes émotions, simplement.
Et absolument.
Celles que je n'ai pas voulu écouter, celles que je n'ai pas entendues.
Oui, exactement. Celles qu'on ne veut pas entendre. Mais cette voix intérieure qu'on a et ses ressentis, on les sait. Et là où on ne s'écoute pas constamment, enfin, on sent qu'on ne s'écoute pas. Et de toute façon, il y a ce petit vélo dans la tête, vous savez, en background, en arrière-plan.
En toile de fond. Hein.
Oui, en toile de fond. On a cette petite voix dans la tête qui nous dit non, c'est pas le bon moment. Et du coup, on est en conflit intérieur quand, du point de vue rationnel, parce que tout à l'heure, vous parliez du 15% de rationnel, là. Quand du point de vue de rationnel, on se dit c'est OK, j'ai pris la bonne décision, mais au fond de soi, émotionnellement et viscéralement,
on sait
quand on sait s'écouter. C'est en ça que le fait d'être attentif à ses ressentis est précieux, parce que ça, c'est un allié qui ne nous mentira jamais. Et c'est en ça que la méditation a été extrêmement... ça a été un véritable trésor pour moi, clairement.
Alors, avec toute cette belle évolution, qu'est-ce que vous avez construit dans votre vie sentimentale, professionnelle, amicale, familiale, tout ça?
Pas mal de choses... Bien, familial, je suis toujours extrêmement entourée, ça c'est précieux dans mon existence. Du point de vue de ma carrière, puisque bon, ma vie a été une conquête et maintenant c'est un cadeau, désormais je me fais plaisir et la boucle est bouclée, puisque à mon tour, j'ai le plaisir d'offrir mon aide. Donc j'aide des jeunes femmes touchées par un cancer du sein à faire face à la maladie et à la transformer en tremplin dans leur existence.
Comment ça? Par quel biais?
Je suis psychologue de formation.
Ah, d'accord.
Oui, je suis psychologue de formation et j'aide ces jeunes femmes, entre 20 et 45 ans, j'aide ces jeunes femmes à faire face à cela et à transformer cette difficile épreuve qu'est la maladie et le fait d'être confrontée à une potentielle, à une maladie potentiellement mortelle.
À sa propre fin.
C'est violent, surtout quand on est jeune, qu'on a créé une carrière et qu'on a l'impression d'être en mode, la vie est devant moi. Mmh. Et là, pour le coup, c'est génial de les aider, c'est un pur plaisir, parce que là, pour le coup, la boucle est bouclée. Je rends quelque part ce que l'on m'a donné et il fallait que je donne du sens à ma vie, nécessairement. Et donc, dans ce cadre-là, j'ai créé un site web qui s'appelle phoenixrose.com, dans lequel je transmets des stratégies pour aider ces femmes à devenir actrices de leur sang.
C'est ça?
Vous avez dit Sinistrose.
Non, j'étais un peu surprise, j'ai pas compris le mot que vous avez dit.
Non, c'est Phoenix Rose, Phoenix comme un phénix.
Moi, je me disais, c'est bizarre d'appeler ça, je crois que c'était un clin d'œil humoristique, Sinistrose.
Oh mon Dieu, non, mais vous savez que je fais preuve de beaucoup d'humour, mais j'hésite peut-être un peu sur mon site web, parce que, étant donné que je suis pas forcément concernée par contre.
Phoenix Rose, d'accord.
Non, c'est Phoenix comme la créature qui renaît
de
ses cendres,
oui,
et Rose...
Sûr.
Ouais. Le phénix, c'est vraiment la créature qui c'est la résilience, et rose, c'est la couleur du cancer
du sein. Pour le cancer du sein, oui.
Ouais, clairement. Et du coup, dans phoenixrose.com, j'aide les femmes à devenir actrices de leurs soins et à surmonter le contre-coup après les traitements, parce que ce qu'on sait très peu, c'est qu'il y a une sorte de blackout après les traitements, et ça, pour le coup, c'est important de le savoir, parce que beaucoup d'entre elles culpabilisent à se dire « Oh mon Dieu, on vient de me sauver la vie, je viens de passer des soins extrêmement difficiles, et là, je me sens déprimée, dépressive, abandonnée », mais c'est normal, mesdames. Aucune inquiétude, c'est normal.
Votre site est en anglais?
Non, il est en français.
Pourquoi on l'a en anglais?
C'est drôle que vous demandiez ça.
Parce que Nicolas me l'a sorti là pour que je puisse le voir, et il sort en anglais.
Ah, c'est drôle. Non, il est en français. Ça se phénix, phoenixrose.com. C'est phénix, mais je l'écris en français.
Ah, il n'y a pas le O?
Non. À la base, je voulais l'écrire avec le OE, mais malheureusement, les patientes que je suis, non, c'est pas qu'il était pris, mais les patientes que je suis l'écrivent avec un E accent aigu.
Ah oui, Phoenix, en phonétique pratiquement.
Ouais, c'est dingue. Moi, c'était OE comme la ville des États-Unis, Phoenix.
Attendez, on est en train de me le montrer en même temps. Bon, Nicolas est en train de chercher tout ça. Mais oui, c'est ce qu'on a. Vous êtes exactement l'exemple même de la résilience, quoi. Et comme vous dites, la boucle est bouclée quand on arrive à faire d'une épreuve un défi qu'on a surmonté et qu'on arrive en plus à aider les autres après. Mais qu'est-ce que c'est ? Quel beau cadeau de la vie, hein.
C'est le sens de ma vie. Non, mais sincèrement, je suis tellement heureuse. Et vous vous rendez compte, jamais j'aurais imaginé ça étant enfant, puisque moi-même, je ne pouvais quasiment rien faire, comme je vous disais, prisonnière de mon corps. Et c'est juste génial, l'enfant en situation de handicap, qui est des personnes valides à aller plus loin dans leur vie. Et on a beaucoup plus de marge de manœuvre qu'on le croit. On a des ressources, mais chacun d'entre nous a ses ressources. En réalité, c'est qu'on ne les a pas utilisées. La vie, si vous ne savez pas, c'est que la vie ne vous a pas encore donné l'occasion de l'expérimenter. Mais quand vous l'avez, croyez-moi, vous le faites, parce qu'on n'a pas le choix.
Avec l'hypnose, je passe mes journées à expliquer aux gens que le pouvoir, ce n'est pas moi qui l'ai, c'est eux.
Ouais.
Que les compétences, elles viennent d'eux à l'intérieur, mais qu'on ne leur a pas montré le chemin, effectivement.
Exactement. Et c'est passionnant quand vous voyez les personnes s'en rendre compte, parce que quand elles arrivent, elles sont dans le doute. Et c'est quand il y a ce déclic et qu'elles se rendent compte de ce qu'elles ont en elles. Et c'est en ça que je vous dis que je les aide à aller plus loin et à transformer leur existence en tremplin, parce que quand on a traversé une maladie comme ça, il y a un avant-après. D'une part, parce qu'on a éprouvé la finitude, mais d'autre part, parce qu'on est conscient de ce dont on est capable et on se dit mais il faut que ça change quoi, on en vit en gros, il y a une de mes copines qui dit ça, mais de déchirer la planète parce que on a traversé quelque chose de fou quoi.
Si vous saviez comme ça me parle.
Ouais, non mais j'en suis persuadée que ça vous parle, et comment
j'ai deux questions Florence, pourquoi le cancer du sein et pas toutes les femmes qui ont tous les cancers?
Parce que il y a un côté, chez les femmes, le cancer du sein est très peu diagnostiqué, chez les jeunes femmes, attention, parce que le dépistage est entre 50 et 74 ans. Or, il y a beaucoup de jeunes femmes, parce qu'elles sont jeunes, elles sont moins bien dépistées, et donc, pendant qu'elles sont dans cette errance diagnostique que moi-même j'ai connue, hein, pendant qu'elles sont dans cette errance diagnostique, la maladie, elle, se développe. Et c'est une perte de chance que je trouve terriblement injuste. En plus, on est en France, en plus, on a des soins, on a un système de santé extraordinaire, parce que je connais les États-Unis, les pays anglo-saxons. Et là, par manque de... Enfin, beaucoup de mes patientes m'ont dit qu'on ne les a pas forcément crues, qu'on leur a souvent dit que vous êtes trop jeune pour avoir un cancer. Justement, c'est l'accroche de mon site web. J'ai dit, j'ai dû dire une phrase comme on vous a dit que vous étiez trop jeune pour avoir un cancer. Pas de souci, si vous êtes à votre place. Mais effectivement, j'ai beaucoup de patients qui m'ont dit non, on m'a dit que c'est trop jeune, que c'était dans ma tête, etc. Et c'est dommage que la maladie, pendant ce temps-là, elle ne pardonne pas. Et en plus, lorsqu'on est jeune, lorsque les femmes sont jeunes, les cancers sont souvent plus agressifs. Combien de mastectomies pourraient être évitées si le diagnostic pouvait être plus précoce? Combien de vies, finalement, sauvées? Parce que, je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y a eu un... Cet été, il y a un collectif qui s'appelle les Triplettes, qui a lutté notamment pour l'accès aux soins à des femmes qui ont un cancer du sein de type triple négatif. Et il y a beaucoup de jeunes qui ont ce type de cancer du sein, et ce cancer du sein est redoutable, c'est le plus agressif. On dit qu'il y a 9 femmes sur 10 qui sont soignées du cancer du sein, et dans les 10% qui ne sont pas soignées, c'est souvent, pas tous, qui sont triple négatifs. Ouais. Et du coup, beaucoup de jeunes ont ce cancer-là, et celui-ci est agressif et il évolue très vite. Alors vous imaginez l'errance diagnostique, à quel point elle est pas, elle ne pardonne pas.
Elle est dangereuse, bien sûr.
Mais c'est terrible, et beaucoup de femmes sont décédées de ça, des mamans, des jeunes, vraiment, et ça fend le cœur. Donc j'ai un petit côté militant aussi. Et du coup, je dis non, ça va être les jeunes, parce que j'ai envie de ça. Il y a tellement de choses à construire. En plus, quand on a surmonté ça en étant jeune, je pense qu'il y a aussi une vie, une autre vie à construire, hors du train-train quotidien. Et là, on se rend compte du caractère précieux de l'existence. Et en général, celles qui s'en sortent après, c'est la relation d'aide qu'elles font. Je crée des petits bébés.
Et où êtes-vous géographiquement?
Géographiquement, je suis à Paris.
Vous êtes à Paris?
Oui.
D'accord.
Mais je vais peut-être bientôt partir à l'étranger, parce que... Ah. Ouais. Parce que le climat parisien ne me plaît plus tant que ça. Et du coup, je vais certainement aller sous de plus charmants climats.
Parce que je vois sur votre site que vous proposez une aide gratuite, finalement. À quoi on a accès sur votre site gratuitement ?
Sur mon site, gratuitement, on a accès à des stratégies. Donc, c'est une sorte de coaching, c'est ce qu'on appelle une série d'emails. Donc, j'envoie des emails tous les deux jours où je monte donc des stratégies concrètes. Ça peut être, comme bon, là, ça va être de tête, hein. Ça peut être lire un document pour être actrice de ses soins. Donc, pour être actrice de ses soins, il faut s'informer.
Préserver votre image corporelle et vos relations intimes, je vois.
Exactement.
Briser la solitude, voilà. Garder l'espoir. Ne soyez pas perdu lorsque vos médecins vous parlent du cancer et des traitements.
Exactement.
Calmez
donc
votre
esprit. Donc il s'agit de s'informer.
D'accord. Et tout ça, vous faites
gratuitement. Oui, s'informer parce que l'information, c'est le pouvoir. Être actrice de ses soins, il faut d'abord s'informer, clairement.
D'accord.
Il faut connaître les sources officielles, donc du guide que je propose, c'est celui de la Ligue contre le cancer. Ensuite, je propose à des femmes de télécharger un listing de questions à poser à leur médecin oncologue. Qu'est-ce que ça va être? Quel type de chimiothérapie j'aurai? Combien de temps? Quel type de traitement? Quel effet secondaire? À quoi je dois m'attendre? Est-ce que je pourrais avoir une vie normale? Est-ce que je pourrais conduire? Est-ce que je serai opérationnelle au travail? Est-ce qu'il y a tellement de choses qu'on ne sait pas, mais la chimiothérapie a un impact cognitif, en fait. Et du coup, c'est peu documenté en France, malheureusement. C'est ce qu'on appelle le chemo brain. Le brouillard mental. Et donc voilà, est-ce que... Enfin, il y a plein de questions. Donc le but, c'est vraiment de rendre les personnes actrices avec des outils opérationnels. Donc tous les deux jours, j'envoie un mail en leur demandant pour vos prochains mails de faire les exercices, puisque c'est la pratique qui permet. Donc quand je dis faire des exercices, c'est lire la partie du guide qui concerne les soins. Notamment, ça peut être la chirurgie pour la première partie de ma séquence email. Donc, vous savez ce qu'est une chirurgie du sein. Et ensuite, vous avez une liste de questions à poser à votre chirurgien. En l'occurrence, ça va être pourquoi est-ce qu'on fait cette chirurgie? Quelle partie? Si on doit faire une, ce qu'on appelle une tumorectomie, quelle partie de la poitrine on enlever? Désolé, c'est assez clair.
C'est un vrai coaching essentiel parce que pour parler beaucoup avec des femmes qui ont des cancers différents, je sais à quel point on est perdu seul et on ne sait pas à qui, on ne sait même pas quelle question poser, donc vous avez entièrement raison.
Ouais. Bah, c'est de la pratique, hein. C'est vraiment pragmatico-pratique. Et du coup, elles sortent de ça et elles savent quoi poser. Donc, je leur donne la liste des questions à cocher et ça, vous emmenez cette liste avec votre oncologue pour ne pas être perdu. Déjà, il y a les termes.
Mais rien que ça, c'est énorme. C'est énorme.
C'est fou. Hein. Elles sont prises par les émotions, on ne comprend rien. Enfin, le monde médical est flippant. Moi, j'ai grandi dedans, je connais, mais c'est flippant. Tu es dedans, tu ne comprends rien. Ils ont leur jargon. Les médecins sont formidables, hein, clairement, mais quand les femmes sont dedans, qu'elles ont été en bonne santé, le cancer fait peur, hein, clairement. Enfin, moi, j'ai l'habitude de la maladie, bon, ça ne me dérange pas.
Ce que je vous propose, je vous bouscule un peu parce que l'émission va se terminer.
Ah,
vous savez que j'ai une page Facebook publique qui s'appelle Sabine Marin, tout simplement.
Ouais.
J'aimerais beaucoup parler de vous et de votre site demain, si vous le permettez.
Ah, avec joie, bah, si vous voulez, on peut faire une interview ou quelque chose de genre. Enfin, je ne sais pas si...
Ah, sur ma page, je ne fais pas vraiment ça, c'est juste simplement des liens. Donc, je parlerai de vous pour les gens qui n'auraient pas été à l'écoute ce soir pour qu'il y ait un relais.
Ah, c'est gentil.
Et je raconterai en quelques mots notre échange et puis je mettrai le lien vers votre site. Parce que je trouve que ce que vous faites est formidable et que votre parcours est exceptionnel et que c'est extrêmement généreux à vous d'avoir partagé tout ça avec nous.
Ah, c'est normal. Non, c'est un plaisir. Bien, du coup, je vais juste... deux petites choses pour les auditeurs, du coup. on aime aider ou on n'aime pas, hein, mais je crois que je suis dedans. Une chose, c'est ce que je sais que... Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, voilà. La première chose, c'est que... Certainement, beaucoup de vos auditeurs, puisque s'ils écoutent la Libre Antenne, c'est que bon, la vie n'est pas forcément facile pour eux. Et,
très vite, Florence, il nous reste 30
d'accord.
secondes.
Donc, rapidement, juste vous dire, si la vie est difficile pour vous et si votre corps ne vous apporte pas satisfaction, ne vous abandonnez jamais. Clairement, il sera toujours là pour vous, mais vous n'abandonnez jamais votre corps, respectez-vous toujours. Et la deuxième chose, c'est... Si le soir vous angoissez et qu'après la Libre Antenne vous savez pas quoi faire, écoutez des livres audio parce que ça peut vous aider à vous endormir. Écoutez une belle histoire comme quand vous étiez enfant et ça peut vous détendre.
Florence,
voilà.
Il vous reste 10 secondes. Merci mille fois. Je vous promets qu'on prend le relais sur ma page Facebook.
Oui, c'était
demain.
Un plaisir, Sabine. Au revoir. Un
plaisir partagé. Merci à vous. C'est terminé. Effectivement, il nous reste quelques secondes pour nous dire au revoir. Merci à tous pour cette belle émission. Rendez-vous demain soir à partir de 23h pour une nouvelle édition de cette Libre Antenne. Et je vous quitte avec la phrase du jour. Si tu retiens celui qui t'éloigne, tu pourrais barrer le chemin à celui qui veut se rapprocher. Passez une bonne nuit et à demain. Une heure du matin sur Europe 1, c'est donc le début des programmes de la nuit.